Radio éphémère 89.1 MHz.
CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU en mode Lost and Found, gare à la frime, un pâté croûte oublié, des relents de Marscalia et des IA qui fâchent tout le monde. L'équipe aujourd'hui, Touf, Enflammé, Gabriel, Benoît et Dascritch. Et j'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux. Et hop, c'est parti. Bonjour toutes et tous, bonne année, bonne santé en 2026. Et non, on ne va pas faire la blague sur les résolutions, elles n'ont aucun intérêt, elles sont has-been. Et bonjour Gabriel.
Ah, bonjour.
Bonjour Touf.
Bonjour.
Bonjour Benoît.
Bonjour.
Bonjour à Infested Grunt et à Thibaut qui n'ont pu être présents à l'enregistrement et qu'on salue. L'un avait un cargo à livrer en orbite basse, l'autre est cloué au lit suite à une grippe peut-être d'origine extraterrestre. Bonjour à la couleur Pantone de l'année 2026, Cloud Dancer, référence 11-4201-TCX. Je peux le dire à la radio, il n'y a pas de droit à payer à Pantone. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui as ce regard brillant et saisonnier de celui qui a fait un bon chiffre d'affaires en revendant ses cadeaux sur Vinted, eBay ou Le Bon Coin. Et sans regret. C'est moche, la boubou. Ah là 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 là. On est dans la saison avec à la fois des soldes, mais aussi les annonces des nouvelles références haut de gamme chez les constructeurs aux marques premium. Et tu sais ce qui va se passer. Regarde. Qu'il est agaçant l'autre kéké du bureau d'à côté, celui qui frime avec le nouvel iPhone ou la phablette Samsung qui ne sont en vente que depuis 3 jours. Sans parler qu'il s'est aussi payé l'Apple Vision Pro 2 Plus M5 pour que son voisin voit son visage béat quand il le porte pour consulter ses emails ou l'anneau connecté Nintendo, histoire de faire les mêmes mouvements que dans Doctor Strange, Lost in Marvel's Multiverse Franchise. Bref, uniquement pour se faire remarquer. Parce que dans les faits, même s'il prétend le contraire, il n'en a toujours pas trouvé l'utilité. Je veux dire une utilité pratique, avérée, inédite et qui justifie le prix. La frime. Avec un gizmo, il y a de quoi tourner un film comique français, c'est-à-dire pas vraiment drôle. Vanitas vanitatum et omnia vanitas, si tu me vois venir, je ne juge pas. Mais le désir de frime est tel qu'il peut te mettre dans une situation de grand danger, même si tu prends tes précautions et que t'es discret en public. Je t'emmène en 2003 au Yémen, un des pays les plus pauvres de la planète, pays dont la misère déjà importante s'aggravait à cause d'une guerre civile. En plein milieu de la prière du vendredi, dans une mosquée, la cérémonie religieuse est troublée par un bruit totalement inattendu, une sonnerie de portable. À l'époque, moins de 1% de la population yéménite a un téléphone mobile. Très vite, la foule des croyants comprend que le bruit strident sort de la poche d'un mendiant. L'individu en guenille détale alors très vite à toute vitesse, ayant bien conscience qu'il pourrait se faire lyncher par les autres fidèles furieux, ceux qui venaient de lui donner une obole comme leur foi religieuse leur dicte. Avoir un téléphone mobile, même archi simple, mais qui valait bien plus qu'un mois de salaire, ça n'était pas vraiment très raccord avec la pauvreté qu'il simulait pour exploiter la piété des autres. Et attention, enfant du futur immédiat, le fantasme de certains politiques sur les grandes télé 4K achetées avec l'allocation de rentrée ne reste vraiment qu'un délire mis à mal par les chiffres de vente. Septembre et octobre ont toujours été les mois où les télés se vendent le plus mal en France. Idem pour les consoles de jeux. C'est pas parce qu'un type qui fait la manche a eu un Nokia 3310 il y a 25 ans qu'on doit généraliser sur tous les pauvres. Oui, et des fois, ça fait du bien de couper le sifflet des politicards au parleur clivant. Tiens, restons au début des années 2000, où déjà se vendaient des téléphones factices. Mais je veux dire, se vendaient vraiment. Des chiffres n'étaient pas ridicules. Mais pourquoi donc construire des téléphones factices, des moulages plastiques bariolés d'autocollants pour simuler écran et touche? Je veux dire, pas des téléphones jouets à taille réduite pour tes petites mains d'enfant afin que tu puisses jouer au trader pressé face à la marchande de dinette. Non. Des téléphones à l'aspect réplica, de vrais modèles fonctionnels qui se vendaient 20 fois plus cher en magasin. La plupart du temps, ces faux téléphones se vendaient à la sauvette à des pigeons en leur faisant croire qu'il s'agissait du vrai bidule de marque. Mais là, je parle d'une clientèle finale complice, des adultes qui les payaient en connaissance de cause. Alors pourquoi des particuliers les achetaient-ils ? Parce que non seulement acheter un téléphone portable était très cher à l'époque, mais l'abonnement pour le faire fonctionner aussi. Or, au tournant de ce millénaire, de par l'ensemble des coûts induits, le téléphone mobile était un marqueur social, un symbole de réussite, l'objet qui rend jaloux les voisins. Oui, cette dernière phrase fait immédiatement penser à l'album BD Obélix et compagnie, celui avec le célèbre caméo de Jacques Chirac face à Jules César, une scène mémorable où J.C. Gomina explique à J.C. Pontifex Maximus, conquérant des Gaules, le positionnement commercial du menhir gaulois sur le marché romain dans une keynote PowerPoint d'anthologie. Oui, oui, keynote et PowerPoint. Goscinny et Uderzo étaient incroyablement visionnaires en 1976, ou alors le rédacteur en chef René Goscinny n'a pas été réellement épaté par les recommandations d'un consultant missionné par son patron Georges Dargaud, mais il a pris des notes. À ce fameux slide en marbre sur le positionnement commercial du menhir gaulois pour susciter un acte d'achat, les bénéphiles sur le plateau connaissent déjà la bonne réponse sur les quatre, la D.
Ceux qui rendent jaloux les voisins.
Ben c'est dire si l'achat frime comme marqueur social ne date absolument pas d'hier. Et au final, ces menhirs finiront aux encombrants si le stratagème commercial échoue. Sauf que, pour en revenir aux faux téléphones portables, ces faux objets non fonctionnels peuvent dévoiler leur tartufferie au pire moment. L'incident a eu lieu tellement de fois que je ne suis même pas sûr du pays où il a été reporté la première fois et je ne l'ai pas retrouvé sur le site d'info originel. Donc, de ce que je me souvienne, c'était dans le compartiment voyageur d'un train vers l'an 2000, probablement en Espagne. Évidemment, parmi la dizaine de passagers, il y en a un qui ne peut s'empêcher de parler fort dans son téléphone portable au grand agacement des autres voyageurs. Sauf que, dans le même compartiment, une personne âgée commence à faire un malaise cardiaque. Fort logiquement, les voyageurs et le contrôleur ameuté pressent le téléphoneux à appeler au plus vite les secours afin de sauver la personne en détresse vitale. En composant le 112, nous ne vous le répéterons jamais assez. Je te laisse imaginer l'inconfort total de ce crétin... du mec qui parlait très fort 2 minutes avant dans son bitonio en plastique, creux quand il a dû avouer que son téléphone était factice. Il simulait une conversation pour frimer. Il a eu droit au traitement exactement inverse avec la médiatisation honteuse qui allait de pair. Chez. Non, enfant du futur immédiat, je ne traduirai pas le mot cambronne qui n'est pas très distingué mais parfaitement qualificatif. D'ailleurs, petit rappel, est toujours très mal vu de parler au smartphone dans les transports en commun. L'amende est de 150 €. Même une sonnerie n'est pas très polie dans le silence de cathédrale des bus double soufflés. Et pourtant, moi-même, entre autres crimes contre l'humanité, à l'époque je vivais professionnellement en concevant et vendant des sonneries de portables fantasy. Oui, je faisais mon beurre de la vanité des autres. C'est d'ailleurs pourquoi ces deux faits divers m'avaient marqué à l'époque. Je parle d'une époque, la 2G du 2K, où les téléphones portables n'étaient pas ce rectangle noir et lisse dans leur sobriété signature. Une époque où les télés étaient en format 4 tiers et aussi longues derrière, et où des constructeurs de feature phone ont vaillamment tenté un segment, le fashion phone. On a déjà glosé avec les Zélibri de Siemens et le Nokia 7280 l'amour, celui qui ne sert que quand tu sortais en club le week-end ou pour faire ton shopping rue Croix-Marignon. Ça c'est une référence pour les Toulousains, pour les autres, songez avenue Montaigne à Paris. Nokia avait lancé une marque spin-off de téléphones très 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 haut de gamme, Vertu. Des téléphones aux finitions grand luxe en cuir cousu avec un bouton applicatif en rubis qui permet d'appeler une conciergerie de luxe. Spoiler, la marque existe toujours et reste la plus onéreuse au monde. Il faut dire que cela fait plus naturel d'avoir sur sa table de restaurant à Courchevel un smartphone plutôt que les clés de sa Bentley. Ah, c'est quoi Courchevel ? C'est l'ancien Dubaï, mais la neige était dehors. Tu demanderas à tes parents qui t'expliquent le concept de station de ski avec un vieux film. Un quart de siècle plus tard de nos jours, quasi tout le monde a un smartphone. Cela n'a plus rien d'exceptionnel et il y a des gens assez discrets pour ne pas l'exhiber connement et qui pensent à s'en servir en cas d'urgence avérée. À moins que les vols à l'arraché ont simplement calmé votre enthousiasme à exhiber devant tout le monde votre Galaxy Z Trifold tout neuf. Plouf plouf. Revenons à notre bling bling. Ma chronique sur la frime via smartphone comme mobile ne saurait être complète sans cette information qui délectera nos audilecteurs, avides de paraître outranciers, qui en ont les moyens mais qui ne souhaitent pas particulièrement un smartphone de marque Trump. Oui, un tel modèle existe. Le frère du célèbre fabricant de drogue Pablo Escobar s'est associé avec Olof Kiros Gustafsson dans une drôle de venture. Il vendait des smartphones à la marque Escobar Inc., avec la photo du célèbre défunt empereur de la cocaïne. Des vrais smartphones fonctionnels, dorés et extrêmement chers. Le plus drôle étant que dans leur pub sur YouTube, ils trashaient ouvertement les iPhones et Samsung, alors que ce qui était livré n'était qu'un iPhone ou un Samsung recouvert d'un film plastique doré, vendu dans un écrin, avec un fond d'écran à la gueule du narco-trafiquant. Encore une fois, le monde des apparences. Des gens ayant décidément trop d'argent ont voulu jeter de la poudre aux yeux des autres avec leur Escobar phone en s'en commandant un. Selon les retours, les commandes étaient effectivement honorées que si vous étiez un influenceur très notoire. Le très gros des clients n'a jamais rien reçu sinon le relevé bancaire de la ponction douloureuse. L'associé de Escobar Inc. s'est retrouvé au Newf, le frérot court toujours. Bonne chance pour obtenir réparation dans un pays où la lutte contre la corruption n'est toujours pas gagnée. Je ne parlais pas des États-Unis. Enfant du futur immédiat, cette ridicule pulsion du paraître qui te pousse à dépenser des fortunes dans un gizmo en oubliant sa valeur fonctionnelle peut tuer, et pas que ta réputation. Alors, fais un geste pour la planète. Garde ton smartphone usuel une année de plus, ça se voit moins, mais c'est mieux pour le futur et ton porte-monnaie.
And now, the news.
Vous écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile. De suite, notre édition de news pour janvier 2026 avec l'ensemble de la rédaction. Bonjour Gabriel, bonjour Touf.
Et elle est passée où la musique ?
Au directeur ? Vous qui nous écoutez à la radio sur Toulouse, Radio FMR change de site émetteur le 15 janvier le matin. La durée d'interruption de service est estimée à 4 heures. Nous ne diffusons donc pas d'émission CPU la semaine prochaine. Tous nos émetteurs hertziens sont concernés, FM et DAB+. Nous passons de Ruda Sali, chez Radio Occitanie, qu'on salue à ta vie de pêche. Nos fréquences de transmission ne changent pas. Notre émetteur de radio streamée ne bouge pas. Il reste dans le frigo du local technique, à côté des crocs et du pâté croûte de la réunion d'animateurs de septembre 2021, oubliée par nos présidents Pierre Rogal.
Instagram a utilisé comme illustration de publicité des photos postées en privé. Des images de filles mineures en uniforme scolaire, présentées principalement à des hommes de plus de 40 ans, dans le cadre d'une pub pour leur service Threads. Mais voyons Meta, n'est-ce pas un peu grossier d'utiliser des photos privées? Surtout pour sexualiser. Epstein aurait sûrement liké. N'oublions pas, tout ce que vous avez posté sur Facebook, Instagram ou Threads, Meta se réserve le droit de le réexploiter pour des pubs ciblées. C'est dans les conditions générales d'utilisation que vous avez validées sans même les lire.
The Conversation a produit un article très intéressant. Et si le BDSM, Bondage, Domination, Sadomasochism, enseignait aux managers à mieux respecter leurs équipes?
Brocoli, j'en ai marre, vous m'énervez avec vos tickets sous Jira.
C'est pas le safe word, c'est le mot de passe de la machine à café de la semaine dernière. Tu restes, il y a encore une dizaine de news.
Oui maîtresse. La chaîne de télévision Game One a fermé. Ils ont survécu à No Life de 7 ans. Par contre, ils étaient rentables. La raison est due au rachat du groupe Paramount CBS Viacom, MTV, Beat, Nickelodeon par Skydance. Courage aux ex-salariés et prestataires, on espère vous revoir.
Studio cinéma toujours. La Major Lionsgate avait conclu un partenariat avec Runway, aussi bien sur l'écriture d'un scénario, selon les audiences de films équivalents, que l'usage d'acteurs numériques. L'idée étant de produire à la tonne des suites de franchises comme The Hunger Games, John Wick, The Twilight Saga et so. Visiblement, les scénarios de synthèse n'ont même pas convaincu un seul commercial. Poubelle, une année de perdue.
Ça s'appelle une grosse sueur froide quand on tient à un fer à souder. Qualcomm rachète Arduino. Les rois des processeurs archi-propriétaires des smartphones rachètent les pionniers de la carte à prototypage. L'histoire d'Arduino est remplie de crasseries, mais celle-ci est assez ultime. J'ai pas trop compris le move, peut-être l'argent.
Witsid en RJ. La start-up toulousaine de crowdfunding immobilier n'a pas échappé ni au marasme du marché, ni à la faillite de plusieurs promoteurs immobiliers. La hausse des taux d'intérêt aurait dû l'aider, mais a finalement eu raison de ses clients.
Mise à jour depuis l'enregistrement de nos news, Advenis a repris les actifs et activités de WeSeed. Et tant qu'on y est d'ailleurs, félicitons au passage le studio Soundfall pour les 9 Game Awards remportés par leur premier jeu Clair Obscur Expedition 33, dont celui du jeu de l'année. De suite, la reprise de vos news habituelles.
Oui, on ne le mange pas. Oui, je suis à l'antenne. C'était Pierre Rogal, il m'a remercié. Il cherchait les binous partout.
Et le pâté croûte ?
Il m'a promis de pas y toucher. Après la généralisation à tous les smartphones et toutes les tablettes, ce qui fait mal au cul d'Apple, la prise USB-C devient obligatoire sur tous les appareils high-tech qui n'ont pas une prise électrique standard, mais un transfo. Ceci est un règlement européen, donc impossible d'y échapper. Fini les transfos à changer car le câble est mort. Ça permettra peut-être d'avoir des multiprises murales USB-C power delivery au bureau pour l'écran, le téléphone filaire et le switch Ethernet. Mais comme le note Frandroid, il reste le risque qu'on ait des câbles USB vers connecteurs propriétaires. Au hasard, la Switch 2 ?
Pavan Davuluri, le patron de la division Windows chez Microsoft, l'a annoncé lors de l'événement Microsoft Init. Windows 11 embarquera l'IA de base et deviendra un système agentique. Il s'est pris une volée de bois vert sur X. 01net a fait le tour des réponses. L'IA obligatoire est la première cause de migration vers Mac ou Linux, surtout dans les entreprises. Quel génie!
Dave Plummer, ex-dev de Microsoft qui a codé entre autres le gestionnaire des tâches, est assez amer sur ce que devient Windows système agentique. Selon lui, un OS médiocre, une plateforme marketing avec de la télémétrie partout. Bref, un repoussoir. Il a un plan d'amélioration qui ressemble furieusement à un programme présidentiel inspirant. Comme il le dit, ça ne va pas le rendre plus populaire au barbecue de ses voisins à Redmond. C'est con. Microsoft y fout des dizaines de milliards dans Copilot. Attendez. GGIA, est-ce que les gens en ont marre de l'IA ?
Je ne connais personne qui n'aime pas l'IA. Achète-moi un nouveau data center.
Yann Lequin, le français qui a créé toute la division IA de Meta, vient de claquer la porte suite à un désaccord avec Zuckerberg. Il estime que la super IA généraliste, le rêve humide de Zuccone, est totalement irréalisable et qu'on arriverait aux limites des LLM généralistes. Vu qu'il a reçu un prix Turing pour l'invention du deep learning, qu'il donne régulièrement des conférences techniques très suivies, j'ai plutôt tendance à croire quand il a dit en octobre 2024 « Si vous vous intéressez à l'IA de niveau humain, ne travaillez pas sur les LLM. » Il a quoi comme doctorat, Laurent Alexandre ?
Il est urologue. Rebecca Henman, surnommée Burger Henman, nous a quittés le 17 novembre dernier à 62 ans des suites d'un cancer. Elle fut la première championne homologuée d'un jeu vidéo aux États-Unis en 1980, Space Invaders, ce qui lui a décroché un poste de critique vidéoludique. Comme elle avait déjà rétro-ingénéré un jeu sur Atari 2600, elle est immédiatement embauchée comme développeuse. Elle n'a alors que 16 ans. Elle programma aussi bien sur Commodore 64 que sur PC, puis Mac, des jeux comme The Bald Stall ou Wolfenstein 3D pour Interplay, Electronic Arts, et Ubisoft. Puis pour Sony, elle travailla le kernel de la PlayStation Portable et de la PS4. L'histoire de ses débuts est racontée dans le premier épisode de la série documentaire High Score sur Netflix. Rebecca Heinemann était membre du conseil d'administration du Video Game History Museum et une des directrices du syndicat GLADE, des droits LGBTQ+. Elle laisse 5 enfants derrière elle et d'innombrables lignes de code.
Dans la série « Oh là là, on l'avait pas vu venir !» Discord se fait hacker grâce à son système de vérification d'âge. Adresse mail, numéro de téléphone, localisation IP, selfie, document d'identité. Comme disent les revendeurs sur le Darknet et les services de renseignement, miam miam.
Michael Burry, le financier qui avait vu l'explosion de la bulle financière en 2007 et qui est le héros du film The Big Short, vient d'annoncer parier contre l'IA et donc avoir mis 187 millions de dollars sur la chute de Nvidia et 980 millions de dollars de Palantir. L'analyse est à lire car le type est un excellent analyste. Ça devient lassant de taper sur l'IA. C'est quoi votre drogue ? Le pragmatisme ?
Lors d'une conf sur l'IA dans la Silicon Valley en novembre, un sondage demandait au public quelle start-up d'IA coulera en premier selon l'audience. Pour les 300 participants, Perplexity serait le plus proche de la faillite. OpenAI arrive en seconde. Une analyse intéressante. Mais comme on est nul et qu'on n'a pas le temps, allez lire la source sur le segment news de la page web de l'émission cpu.pm/228 qui analyse brillamment le marché des services numériques en Inde.
Excusez-moi. Vous auriez pas vu une vis, une Philips 3 mm sur 6 mm à tête fraisée noire au chanfrein bleu clin. J'y tenais vraiment.
Non, mais tu peux regarder dans le frigo du local technique. On a raqué les processeurs d'effet et le streamer de la radio. Il y a parfois des vieux trucs genre pâté croûte périmée.
Mais elle est où cette putain de vis ?
Finalement, je me demande si je préfère pas quand il y a une vis en trop.
Il y a un retour antenne dans le local technique.
Les infos reviennent dans cette émission après ce grand moment de tassage de feuilles.
Me feel infection. It's almost like a tongue on the back of my neck. I never had a choice, connection. I never had a chance to catch my breath. It's eating up the space between us. It's eating up all remaining doubt. It's filling up the hole inside you. Trying to find a way to let itself out. yeah.
Nine Inch Nails, As Alive As You Need Me To Be. Extrait de la bande originale du film Tron Ares. Radio FMR. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes en mode Lost and Found pour janvier 2026. Et oui, on est revenu à l'antenne avec quasiment un an et demi où on s'est arrêté, et ça fait un bien fou. Avant de commencer le courrier des audilecteurs, j'aimerais partager avec notre équipe ce moment qui fait que notre travail bénévole est parfois reconnu. C'était lors du dernier Capitole du Libre, en novembre 2025, dans le bus qui me ramenait à mes pénates. Juste avant mon arrêt, un monsieur d'une trentaine d'années fait une mine un peu triste, tout en tapotant sur sa poussette devant lui, où je suppose qu'un charmant enfant du futur immédiat dort à poing fermé. Je tiens à préciser que je n'avais pas de badge visible, aucun logo de l'émission, juste un hoodie de Radio FMR, mais étant de face, il n'a pas vu le logo de dos qui, par contre, lui, il est vrai, il est absolument immanquable. Cet homme me voit et me fait un sourire. Et il me dit « Merci pour CPU. Dommage que vous ayez arrêté. » Un peu stupéfait, je précise « Mais non, on a repris depuis 2 mois. » Et là, réflexe idiot. « Au fait, vous nous écoutez comment ? Spotify. » Ah ouais. Donc, même si Spotify a repris nos émissions et n'en enlève plus, effectivement, après vérification, on est toujours Shadowban chez eux. Alors évitez Spotify, prenez un autre service de streaming comme Deezer ou un agrégateur de podcasts comme PodCloud ou une app purement podcast native comme Apple Podcasts ou Podcast Addict ou Cast. Et n'oubliez pas de nous noter pour qu'on soit suggéré plus souvent parce que c'est ce qui nous motive à continuer. Mais donc, le courrier des audilecteurs. Dasga sur Mastodon nous a écrit
« Merci Dascritch de réégayer mes oreilles de ton CPU. » Mais sur la dynamique des transitions musicales, j'avais oublié l'effet sur la sieste des enfants.
C'est bien, ils ont de saines lectures audio, par procuration. Mais sincèrement, désolé pour leur réveil. Duo Newton a laissé un commentaire sur Linux FR.
Chic en CPU. Ouf, j'ai cru que vous étiez décédé de mort qui tue.
Comme il le dit dans sa signature.
Le post ci-dessus est une grosse connerie, ne le lisez pas sérieusement.
Julien Georges, toujours en commentaire sur Linux FR.
Je crois que c'est la première fois que j'écoute et j'ai trouvé ça bien sympa. Merci d'avoir repris. Force à toi.
Et merci aussi aux autres membres de l'équipe et à vous de nous soutenir. N'hésitez pas à reposter, liker et mettre un commentaire, la cloche bleue et le pouce jaune. Stupeflow sur Mastodon suite à la diffusion de la première émission de septembre.
CPU, carré et petit utile. Même pas le fameux jingle pour cette nouvelle release. Enfin, bon retour aux ondes.
Alors il se trouve que ce jingle n'apparaît que dans certaines conditions, notamment en début d'interview, sinon ce n'est que le bed de notre virgule, la version purement musicale sur laquelle nous faisons une transition parlée. Ça fait partie de notre petite tambouille de montage, justement pour éviter de fatiguer avec la version chantée. Par contre, on a redécoupé le morceau d'Alpine Star qui nous sert de générique pour faire d'autres virgules de transition entre deux chroniques. Aerogus sur Blue Sky nous a dit
« Bien content de vous réécouter, joyeux retour à vous, enfants du futur immédiat. »
Et nous sommes heureux de vous retrouver. Luke Skywalker sur Linux FR à propos du sujet sur Bill Atkinson, le créateur d'Hypercard à qui nous rendions hommage, a commenté
« Je ne connaissais pas cette personne et effectivement, quelle personne !» En arrivant au passage sur Hypercard, cela m'est revenu en mémoire. J'étais au lycée ces années-là et on y faisait du basic sous DOS. Autant dire que ça ne me passionnait pas en comparaison avec ce que je voyais de ces Mac et de ce Hypercard. On était dans un autre monde, beaucoup plus sexy que l'écran noir et le message Syntax Error Line 10.
Merci à ceux qui complètent nos chroniques et nos émissions, comme KRB sur la première émission sur la synthèse vocale qui nous rappelle que l'Excel 1000, un ordinateur français de 1984, avait de la synthèse vocale par Texas Instruments, et Lolop sur la seconde partie qui ressort un excellent article de 2001 sorti de la revue TAL, 33 ans de synthèse de la parole à partir du texte, une promenade sonore de 1968 à 2001. articles riches de plein d'extraits sonores. Les liens sont en commentaire des émissions en question. Olivier Azo a laissé en commentaire de la chronique de Ben « Markdown, c'est de la merde ».
J'aurais bien aimé que Ben nous parle aussi de Tipst, le dernier langage à la mode pour réconcilier Markdown et Latex.
C'est vrai, il y a même eu une conférence au dernier Capitole du Libre par Patrick Massot. Sur le même sujet, on nous a aussi demandé des retours sur AsciiDoc et Retex. Je vois Ben qui tente de quitter le data center de l'émission sur la pointe des pieds. Ok, lui, il a sorti.
C'est pas Eugène, ça?
Notre émission de 2016 sur le Clodo, ce groupe terroriste anti-informatique qui a commis des attentats à Toulouse entre 1979 et 1983, a un regain de popularité, notamment sur Reddit. Ceci parce que notre invitée d'alors, Célia Izoard, a été invitée par France Inter dans un affaire sensible sur le sujet. Cela nous fait plaisir, à la fois d'être citée par vous et qu'une grande radio nationale parle de ce pan méconnu de l'histoire technique de Toulouse. Je vous recommande vraiment l'émission de Fabrice Drouel, La Voix en Or, car on sent qu'il y a eu un mois d'écriture derrière et qu'ils ont trouvé et diffusé des archives INA assez rares. Alors malheureusement, utiliser les archives de l'INA in extenso est hélas un poil trop coûteux pour nous pour l'instant.
Les caisses sont vides.
Big nous a laissé en commentaire de notre épisode d'Halloween.
Vous êtes très con dans cet épisode, mais c'est très bien.
Ouais, je te dis pas dans quel état Eugène Lowe a laissé le studio d'enregistrement. Pendant que Monique Blanquet, qui faisait son émission après nous, à midi, en direct, en extérieur et en public, a littéralement explosé de rire à l'antenne, son micro était ouvert durant notre générique. Ça, c'était un très beau moment. Toujours au sujet de cette émission, le docteur Gérard Marchand nous a écrit.
Bonjour, j'ai noté durant votre émission spéciale Halloween qu'une forte proportion de votre rédaction présente des troubles psychologiques intéressants. Seriez-vous intéressé pour suivre un stage dans nos services? Nous sommes au 134 Route d'Espagne, ouverte 24h/24.
Attends, je vérifie, moi aussi. Non, nos emplois du temps... Gabriel, non, pas
du... C'est quoi un emploi du temps?
D'accord. On va dire qu'on est un petit peu saturé, hélas. Nous devons décliner à notre plus grand regret cette expérience qui sûrement était très intéressante. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire directement hors des réseaux sociaux. Il suffit d'aller sur le site cpu.pm et de suivre le lien « Nous contacter ». On demande l'email, mais il ne sera jamais affiché, jamais exploité de ce côté-là. Et de suite, on repart après ça.
Éphémère 89.1, corrosif.
Les nouvelles consoles de jeux. Les nouveaux smartphones ultra premium. Oh. Les nouveaux drones. Les nouveaux laptops spécial gaming. Les nouveaux joujoux de bureau. Les nouveaux fauteuils gamers pro molletonnés. Les nouveaux taux d'intérêt des crédits conso. Bave Magazine. Toutes les annonces de tous les produits, tout beau, tout neuf, que vous ne pourrez jamais vous payer. Bave Magazine. Spéciale nouvelle collection. Bave Magazine. En vente maintenant. Trop cher pour vous.
Oh oui.
Bave Magazine.
Oh.
Ceci est un message de l'assurance maladie. Tout comme un médicament, un arrêt de l'ordinateur est un traitement à part entière. Il ne se prend pas à la légère. C'est à votre médecin de décider si vous en avez besoin ou non. Il définit sa durée selon votre pathologie, votre emploi et votre situation personnelle. Pour les arrêts de l'ordinateur de longue durée, il peut aussi vous conseiller pour préparer votre reprise d'activité. L'assurance maladie. Votre médecin peut déclarer votre arrêt de l'ordinateur en ligne, sinon vous avez 48 heures pour l'envoyer par courrier. L'assurance maladie peut effectuer des contrôles de l'ordinateur. Respectez les horaires de présence à domicile.
And now, the news.
Vous écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile. De suite, notre édition de news pour janvier 2026 avec l'ensemble de la rédaction, Gabriel et Touffe. Touffe ?
Non, moi c'est Gabriel.
Ah, pardon.
En 2017, les constructeurs de Smart TV annonçaient des webcams à ajouter ou intégrer sur votre grand écran dans le salon. Elles ont disparu des catalogues depuis 2024, comme les lunettes 3D. Étonnant, non ? À croire que passer des appels visio sur la télé n'a jamais été pris ou que les gens n'apprécient pas que les annonceurs télé les espionnent de leur canapé.
Le site Mac Generation, site de référence très pro Apple, fête ses 25 ans. Et pour l'occasion, avait fait un appel contributif pour un magazine papier. Une histoire revisitée de la marque à la pomme sur 25 ans. Bonne nouvelle, Ce magazine papier est achetable en ligne.
Tu utilises un Mac, non ?
Ouais, d'où la bonne nouvelle.
En Californie, un taxi autonome laisse la police comme deux ronds de flanc. Des policiers de San Bruno, en banlieue de San Francisco, ont été confrontés au vide juridique concernant les robots taxis.
Comme il n'y avait pas de conducteur, une amende n'a pu être infligée. Nos registres de contravention n'incluant pas de cases pour robots.
Une loi californienne arrive cet été permettant d'émettre un avis de non-conformité aux entreprises si leur robot est en infraction. Mais pas directement d'amende. Les vidéos montrées le problème des incivilités des robots taxis se sont multipliées en Californie. Blocage de carrefours, d'ambulances, de pompiers, le gouverneur démocrate n'est plus aussi coulant avec la Silicon Valley. Petit rappel que la conduite autonome de Tesla, c'était une idée d'Elon Musk, afin que les conducteurs transforment en Uber purement autonome leur Tesla. Et en cas de pépin, c'est le particulier propriétaire de la voiture qui casquera. Malin le Musk.
Un incendie majeur lié à une batterie lithium-ion a paralysé le data center de l'État de Corée du Sud, rendant inaccessible 60% des services en ligne de l'État. Un data center situé au sud de Séoul, unique point des applications gouvernementales, donc à moins de 80 km de la frontière avec la Corée du Nord. Non mais expliquez-moi, le data center est ultra critique et personne n'a pensé à faire une redondance à plus de 200 km ? Personne n'a lu la norme ISO 27000 ou quoi ?
Patrick Drahi dépasse son forfait. Les créanciers de Altice attendent qu'il leur rembourse au plus vite les 8,6 milliards d'euros ou qu'il leur cède SFR. Attendez, une fin de forfait comme ça, sans pénalité de résiliation, c'est possible chez SFR ?
Des experts en cybersécurité ont été poursuivis par leurs clients. Des clients ingrats ? Non, même pas. Des spécialistes anti-piratage étaient eux-mêmes des cybercriminels qui plantaient des ransomware. C'est un peu comme si Avast revendait vos données personnelles grâce à son extension pour un navigateur. C'est une bêtise.
Casse du musée du Louvre. La politique de sécurisation du mot de passe a été revue. Il faut dire qu'un audit de 2014 remontait que le mot de passe du serveur de vidéosurveillance était Louvre. Pas de majuscule, tout attaché. Et qu'il n'a pas été changé pratiquement 12 ans après. Désormais, les mots de passe du domaine informatique doivent avoir au moins une majuscule, au moins une minuscule, au moins un chiffre, au moins 8 symboles. Pas mieux.
Louvre 75, avec un avec majuscule.
Effectivement, joli coup de chiffres et de lettres, le compte est bon.
Après le carton du premier film sorti en 2010, David Fincher et Aaron Sorkin annoncent une suite à The Social Network. Après la conception de Facebook, le deuxième volet de Social Reckoning parle des leaks de 2021. Les Facebook Files révélés par le Wall Street Journal et donc de l'atmosphère interne pas joueuse pour les utilisateurs. On est sûr de liker et cette blague devient vraiment trop méta.
You'll never need to walk again. Des criminels voulaient offrir de l'argent à un journaliste de BBC News pour tenter de s'introduire dans les systèmes de la vénérable institution. Ils lui ont proposé 55 000 dollars, soit la moitié d'un bitcoin à ce moment-là. Le journaliste a joué l'indécis. Les pirates l'ont spammé de demandes d'autorisation de connexion sur Microsoft Authenticator. Peine perdue, le journaliste avait déjà alerté les admins de système.
Page sport maintenant. La finale du Microsoft Excel World Championship 2025 s'est déroulée début décembre à Las Vegas dans l'HyperX Arena pleine à craquer. L'Irlandais Diarmond Hurley a écrasé la concurrence, dont le triple champion australien Andrew Ngai avec un score phénoménal de 1250 points suite à un pliage de feuille Excel d'anthologie. Diarmond Hurley portera donc fièrement sa ceinture de cash dans l'Open Space. On revoit ce coup final avec cette macro de 16 000 cellules d'un coup.
But he has a top score of...
There it is. Oh. 526.
Damn it, it's finished.
Wow. We can go sit down. We have our champion. Diarmuid Early from Ireland.
Absolument incroyable. Gabriel, la page business.
La Deutsche Bank avertit que la bulle de l'IA est la seule chose qui maintient l'économie US à flot et que, lorsque cette bulle éclatera, la réalité sera bien plus dure que ce que tout le monde imagine. Mais pourquoi tu gonfles un ballon ?
Pour ça ! Ne vous approchez pas à plus de 3 mètres d'un robot de marche grandeur nature. C'est ce que conseille Rodney Brooks, professeur émérite du MIT, dans un essai technique intitulé « Pourquoi les humanoïdes d'aujourd'hui n'apprendront pas la dextérité ?». Il décrit que les milliards d'investissements dans ce secteur est un fantasme coûteux. Les robots grandeur nature sont des humanoïdes bipèdes dangereux, non pas par peur de sentiments de meurtre, mais parce qu'ils ne savent toujours pas trouver leur point d'équilibre. C'est un peu comme notre réalisateur après sa bouteille de vodka au Purple.
Das Gritsch, tu vas au Purple. Je croyais qu'à Radio Éphémère, la politique...
Chut, enchaîne.
Astuce revenue.
Vous venez d'être bombardé boss d'une entreprise qui fait des implants spyware pour la police ou l'État et vous trouvez votre rémunération pas encore optimisée? Optez pour un complément de revenus non fiscalisé. La revente de failles ZDE avec le code source pour l'exploiter à des puissances étrangères, de préférence russes. C'est ce qu'a fait Peter Williams, ex-général manager de Trenchant, filiale cyber-espionnage de L3Harris, qui vend des solutions de sécurité et d'espionnage aux gouvernements occidentaux et principalement aux États-Unis. 8 failles ZDE concernant le navigateur Chrome, l'iPhone, le Mac et Android, revendues entre 2022 et 2025 à une société russe sous le manteau, pour 4 millions de dollars. Sauf qu'il n'en a touché que 1,3 million de dollars. Par contre, je sais pas si les années de prison seront déductibles des impôts. Ces 8 failles ZDE valaient au cours officiel 22 millions de dollars. Ici, vraiment mal pris.
Alex Pilot a lancé et financé par crowdfunding un projet de long métrage. Démo sur les codeurs de jeux vidéo et démo makers des années 1990. Film prévu pour décembre 2026. On n'en parle pas plus car l'état de surexcitation de la rédaction devant le projet était absolument déplorable. Allez hop, tout le monde, sous Trangsen et à me faire des tableaux Excel.
Sport, la FFLSLS, Fédération Française de Lecture Sportive de Log Server, n'a toujours pas publié les comptes rendus des travaux de la commission sur l'établissement de règles antidopage sur les polices ligaturées. Son président, Daskrich, a déclaré...
Hein ?
L'information continue sur Radio FMR quand la musique s'arrête. Et pour CPU, retrouvez-nous sur BlueSky, compte cpu.pm comme notre site web. Pour cette revue de presse, les sources sont à retrouver sur notre page web cpu.pm/228.
Lady Tron, I Believe in You. Voilà. Radio FMR. La OWASP Foundation, Open Worldwide Application Security Project, a pour mission d'informer sur les bonnes pratiques de programmation et d'installation. Depuis sa création en 2001, elle informe donc des failles et attaques les plus fréquentes et ou les plus dévastatrices réalisées dans l'open source, les applicatifs web et l'IoT. Le développeur consciencieux y trouvera des documentations sur les bonnes pratiques, des logiciels de défense périmétrique, des outils de pentesting et surtout leur top 10 des vulnérabilités qui est édité tous les 4 ans. Et figurez-vous que la mise à jour vient d'arriver. Elle est toute fraîche. Oh mais dites-moi, et si on la jouait manière hit parade des années 80 ? Inquiéter le classement, server-side request forgery SSRF, falsification de requête côté serveur, mais soyez sûr que ce vieux tube tourne toujours. Dans ce classement édition 2025, on note dans les places 10 à 6, un nouvel entrant dans le top, mishandling of exceptional conditions, mauvaise gestion de conditions d'exception, qui concerne les comportements anormaux lors d'une erreur ou d'une exception levée comme la fuite en production d'informations de debug sensibles. Login and alerting failures, carence dans les journaux et les alertes, quand les logs n'alertent pas correctement des erreurs gênant des analyses post-incident. Software or data integrity failures, manque d'intégrité des données et du logiciel sur des sources de données ou de bibliothèques tierces pas forcément dignes de confiance. Authentication failures, identification faible quand un attaquant a la possibilité de faire croire qu'un utilisateur inexistant fait partie du système normal ou une faiblesse comme une trop grande facilité d'automatiser les tentatives d'accès avec les mots de passe incorrects. Insecure design, conception non sécurisée, quand le code ou la plateforme a une faille sérieuse de sécurité, une catégorie qui perd 2 places par rapport au précédent classement. Nous arrivons donc aux 5 premières catégories de dangers de piratage sur Internet. Nous entrons donc dans...
le top 5. Numéro 5.
Injection. Cette catégorie est passée de la 3e à la 5e place, mais il est toujours possible sur de nombreux systèmes d'injecter du code externe parce que les données fournies par URL ou pièces jointes sont très mal nettoyées.
Numéro 4.
Cryptographic failures. Défaillances cryptographiques. Tout ce qui concerne l'usage de fonctions cryptographiques faibles, désuètes ou ayant une faiblesse par design. Pensez aux demandes d'État souhaitant avoir un accès à toute messagerie chiffrée. Elle aussi dégringole de la 2e à la 4e place, mais elle pourrait revenir en force prochainement avec les avancées en cassage de chiffrement par informatique quantique. Patience.
Numéro 3.
Software Supply Chain Failures. Défaillance dans les sources logicielles. Une des failles très 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 en vogue actuellement, mais qui a perdu sa première place. On y range la compromission d'une bibliothèque tierce, les outils logiciels qui ne sont pas mis à jour régulièrement ou qui n'ont pas été audités sur un risque particulier.
Numéro 2.
Security Misconfiguration. Mauvaise configuration des sécurités fait une progression spectaculaire depuis la 5e place, donc à la 2e. Car trop souvent, des configurations par défaut sont beaucoup, mais alors beaucoup trop permissives, ou quand trop de fonctionnalités inutilisées sont quand même activées dans des logiciels. On y note aussi des mots de passe laissés par défaut.
Numéro 1.
Et en tête de ce classement, le Broken Access Control, les contrôles d'accès défaillants, actuellement donc à la plus haute place du podium, avec notamment les sessions mal invalidées après la déconnexion, ou bien évidemment ce qui concerne les applicatifs qui tournent là aussi avec trop de droits ouverts. Un classement qui va faire mal avec, par exemple, des outils d'IA tournant sur des ordinateurs avec trop de possibilités d'intervenir un peu partout dans leur système. C'était donc le classement des 10 vulnérabilités établies par l'OWASP sur un sondage de leurs membres spécialistes. Pensez à bien vous protéger, les petits clous! C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile de Radio FMR, et nous sommes en mode Lost and Found pour vous souhaiter tous nos vœux pour l'année 2026. On vous l'a déjà dit, le logiciel libre est faussement gratuit. Il demande du temps, il demande de la patience, mais il demande aussi de participer au projet lui-même. Par le code, par l'écriture de procédures, la rédaction du manuel, du graphisme, des traductions, les retours de bugs et l'aide à la communauté. Et pratiquement tout ce qui concerne l'informatique aujourd'hui fonctionne en partie ou en totalité grâce au logiciel libre. Mais ces projets eux-mêmes sont sous-financés, sous-staffés. On a déjà eu plusieurs fois des alertes, comme pour OpenSSL, qui est la base commune du chiffrement des protocoles et qui a failli disparaître, ne tenant à l'époque que par la volonté d'une seule personne, faute d'un financement suffisant. Un rapport commandité par Sentry et publié en novembre 2025 fait ce constat alarmant. L'écosystème open source repose largement sur le travail non rémunéré de développeurs en burn-out. Les raisons ? Responsabilité énorme, difficulté à trouver des financements, contributions de tiers trop peu qualitatives, voire malicieuses, tentatives de piratage, communautés ayant parfois un comportement toxique. Et la gamification introduite par des plateformes comme GitHub ajoute une énorme pression sociale envers les principaux développeurs de logiciels libres. En clair, une grosse boîte s'amuse à ajouter une pression sociale par des badges de mérite sur le nombre de contributions, ou bien que nombre de projets open source ne tiennent que par des apports de bénévoles. Parce que oui, hélas, les leçons ne sont toujours pas apprises. Le logiciel libre fait tourner énormément de grosses entreprises, mais celles-ci oublient de participer en retour. Ou alors, elles le font mal. Par exemple, prenez FFmpeg. C'est un outil de décodage-encodage de sons et de vidéos vers de multiples formats. Nous-mêmes, pour le site de l'émission CPU, nous nous en servons pour encoder dans un format son, le HLS, qui permet au smartphone de sauter plus vite entre les chapitres des émissions. FFmpeg est une suite de logiciels créée en 2000 par Fabrice Bellard, un dev français archi-prolifique, à qui on doit aussi QEMU, un émulateur de SASFEPU, une solution logicielle pour émetteur 4G 5G qui tient dans un seul PC, et de multiples outils incroyables. La suite du projet FFmpeg est désormais gérée par Michael Niedermayer. Sans FFmpeg, on n'aurait ni VLC, ni MPlayer, ni Blender, ni YouTube, ni vidéo dans Chrome ou Firefox, ni streaming sur votre télé. Et pour chapeauter le projet open source, FFmpeg est soutenu par une fondation dont le budget annuel est loin sous le million d'euros. Déplorable quand on connaît tout ce qui tourne comme business avec. Car pour utiliser FFmpeg, il vous suffit simplement de le télécharger et en accord avec la licence utilisateur de le signaler. Et c'est tout. Et le problème est que les grandes compagnies ne réfléchissent qu'en termes juridiques ou de qualité de service sans se poser la question de la réciprocité de leurs contributions. Mark Atwood, expert code pour Amazon, a déjà passé une semaine à expliquer à ses patrons qu'il faut absolument qu'ils arrêtent d'embêter FFmpeg pour les histoires d'accords confidentiels. La raison étant des bugs relevés en encodant un fichier vidéo soumis à droit d'auteur, donc impossible à transmettre comme exemple du bug à corriger. L'organisation open source en a cure puisqu'ils n'ont rien signé avec Amazon et que comme les patrons d'Amazon refusent de participer financièrement à FFmpeg, FFmpeg pourrait par agacement d'un coup de commit bloquer le fonctionnement de trois gros projets d'Amazon, à savoir Amazon Prime, un service de transcodage vidéo d'AWS et Ring. Il faut dire qu'Amazon pioche dans plein de projets open source sans jamais contribuer financièrement en retour. C'était d'ailleurs l'objet d'un litige entre Elastic et AWS. FFmpeg est aussi très utilisé par Alphabet, alias Google, aussi bien pour le système Android, pour Android Télé, mais aussi pour YouTube afin de produire des dizaines de formats utilisés par le site de vidéos trop mignonne. Octobre dernier, ça a tourné au vinaigre sur le réseau social entre FFmpeg et Google. Je dois avouer que je ne vais plus du tout sur X pour d'évidentes raisons d'hygiène, et je remercie Steven Vaughan Nichols pour son article du The New Stack résumant les points importants du litige. Google fait partie des géants qui se sont lancés dans la construction de modèles d'IA LLM généralistes en concurrence avec OpenIA, Anthropic, Microsoft et d'autres. Et Google, comme Microsoft, a décidé de fortement compléter le travail de développeurs avec ses outils agentiques, parce que l'investissement massif dans l'IA devra forcément rendre has-been les développeurs humains. Donc l'équipe sécurité de Google a regardé l'immense écosystème logiciel géré par leurs équipes et leur dépendance à des projets open source externes. Ils ont décidé que les IA feraient de la revue de code automatique et ouvriraient automatiquement des tickets de demande de correction sur des bibliothèques open source. L'outil mis en place s'appelle Big Sleep, car souvent il s'agit de bugs non vus, dormants et potentiels nids à faille, ce que l'on appelle une dette technique.
Plantage.
Ça a été un déluge, mais littéralement un déluge de tickets générés automatiquement, avec beaucoup, mais alors beaucoup trop de fausses alertes, des alarmes levées sur des tournures de code incomprises ou sans aucune compréhension de ce qui est ramené. Alors se prendre des audits non sollicités par des gens qui croient bien faire mais qui comprennent rien à votre travail, ça m'est déjà arrivé. On m'a dit qu'un serveur avait une grave faille de sécurité à cause d'un composant Java. Sauf que ce composant Java n'a jamais été installé. D'ailleurs, il n'y avait pas un gramme de code Java sur le serveur, il n'y avait que du PHP. Le robot s'est mépris sur un code HTTP d'erreur retourné sur une portion d'URL. Gros fail. Moi, j'ai été poli, je recommandais à la personne qui croyait bien faire de retourner à son métier où il avait du retard. Mais là, FFmpeg n'a pas du tout apprécié le ticket automatique du bot de Google ouvert sur leur track, leur outil de rapport de bug. Surtout que le bot ne semble pas lire les commentaires et insiste lourdement pour traiter les tickets. FFmpeg a rappelé mi-octobre que les rapports de bugs sont considérés avec sérieux par des bénévoles. Et disons qu'ils ont été diplomatiquement agacés dans ce qui a suivi. Car le bug en question concerne un format vidéo, Smush, qui n'a été utilisé que par une trentaine de jeux sortis vers 1995. Et le bug fait que les 10 premières images de l'intro du jeu Star Wars Rebel Assault 2 ne sont pas lues. Oui, ok, soit compris, mais franchement, on parle de deux vidéos qui ont été pondues il y a 30 ans, dans un format archi-confidentiel et totalement obsolète. Un humain aurait forcément compris que la priorité de résolution était extrêmement basse, tout fan qui puisse être de Star Wars. Sauf que Google Big Sleep lui a attribué un identifiant CVE temporaire dans la foulée du rapport de bug. Je vous la refais. Le bot Big Sleep a ouvert une procédure d'identification auprès de la Mitre Corporation pour se voir attribuer la paternité d'un code CVE, Common Vulnerabilities and Exposure, pour un bug mineur concernant un obscur format vidéo que personne n'a utilisé depuis 30 ans. Se prendre un identifiant CVE sur son code, c'est franchement pas glorieux. Et c'est pas fini. Google a désormais une nouvelle politique. Sur les bugs découverts dans les projets tiers, il laisse 90 jours pour corriger le problème avant de l'annoncer publiquement et jeter l'opprobre sur le développeur troulant à réagir. L'organisation FFmpeg a réagi sur X en qualifiant l'initiative de CVE slop, pourrissage d'index de vulnérabilité. Je rappelle que Google fait des milliards en bénéfices mais reverse trop peu vers les briques du logiciel libre. Par exemple, Google propose de mettre à disposition des développeurs pour corriger des bugs, mais pas plus de 3 bugs par projet par mois, tout en ayant rempli des milliers de rapports d'erreurs sur FFmpeg. Il est loin l'époque 2012-2014 où quand deux devs sécurité de chez Google trouvaient un millier de bugs dans FFmpeg, ils poussaient en même temps leurs corrections dans le code source. L'organisation FFmpeg a été claire. Que Google revoie à la hausse sa participation financière au projet open source pour corriger les bugs qu'il rapporte ou il sera le dernier servi. FFmpeg n'est pas le seul à exploser devant ses rapports de bugs et la pression sociale autour sans reconnaissance. Ainsi, tout récemment, Nick Wellenfer a abandonné sa bibliothèque libxml2, fatigué de demandes incessantes de correction de bugs mineurs. Sauf que cette libxml2 est énormément utilisée, notamment tous les navigateurs web, les suites bureautiques, et j'en passe. Mais n'a donc plus de mainteneur depuis décembre. Après les errances de l'IA avec le vibe coding de mauvaise qualité, l'hallucination de fonctions d'API qui n'ont jamais existé, voilà que l'IA pourrit l'écosystème du logiciel libre par des rapports de bugs tout en faisant pression socialement pour leur correction. On pourrait très bien voir des briques de code primordiaux d'Internet et même de l'informatique moderne exploser avec de telles initiatives de multinationales qui financent des moteurs d'IA avec des fortunes d'un côté, mais rétribuent trop peu les bases logicielles en retour. Ce déséquilibre est lui-même un point de singularité. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Dans la série Lost and Found, release EX0228, janvier 2026. Cette release, l'équipe est composée de Touf, Benoît, Daskritch, Gabriel et Enflammé. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, des extraits et nos sons sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/228. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi dans 15 jours à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct, il est midi, nous retrouvons Monique Blanquer à qui je dédie cette citation. La vraie éloquence se moque de l'éloquence, la vraie morale se moque de la morale, le vrai codeur se moque du vibe coding. Pensée de Blaise Turbo-Pascal. Radio FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.